Deutsche Welle, Économie et Développement.
Comment récolter des fonds pour venir en aide à ceux qui en ont besoin? Vous découvrirez comment le Comité international de la Croix-Rouge cherche de nouveaux financements afin de lancer 3 centres pour personnes handicapées en RDC, au Mali et au Nigeria. Mais tout d'abord, nous allons parler dans ce numéro du Maroc, grand exportateur d'automobiles et d'engrais, qui va faire son entrée dans la CEDEAO d'ici la fin de l'année. Une nouvelle étape de rapprochement après son retour dans l'Union africaine. À 3000 km de Rabat à Dakar, l'officialisation prochaine est plutôt bien accueillie par les politiques, alors qu'elle inquiète des entrepreneurs. Reportage dans la capitale sénégalaise dans un instant. C'est Claire-Marie Costman au micro, bienvenue.
Le Maroc a exprimé son souhait d'adhérer dans l'espace de la CEDEAO en février 2017. Le pays a reçu un accord de principe en juin à Monrovia. L'adhésion sera confirmée en décembre. Pourquoi le Maroc s'intéresse-t-il à l'espace CEDEAO? Bakary Samb, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, explique.
Le Maroc est un pays qui est conscient de ses contraintes géopolitiques et a développé des stratégies de rechange en misant sur un redéploiement en Afrique subsaharienne pour aboutir à l'économie par la banque, qui est un excellent outil d'intelligence économique, et avoir la présence économique qu'on lui connaît aujourd'hui.
Cependant, cette ouverture annoncée inquiète les entrepreneurs de la sous-région. Mansour Kama est le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal.
Le secteur privé national n'a jamais été partisan d'un marché totalement fermé aux étrangers. Mais il ne sera jamais non plus la victime consentante d'une éviction de son propre marché intérieur au moment où dans la plupart des pays, on revient à la préférence nationale et au protectionnisme, même ceux qui se bousculent à nos portes.
Ceux qui se bousculent aux portes, c'est le Maroc. Macky Sall rassure les privés nationaux sur l'entrée du pays dans la zone CEDEAO.
Nous avons entendu l'appel du secteur privé et la CEDEAO a commis une commission d'experts qui s'est rendue au Maroc et qui va nous soumettre un rapport prochainement pour montrer les tenants et les aboutissants, les avantages et les inconvénients.
Cette adhésion va consacrer la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes entre le Maroc et les pays de la CEDEAO. Pour Bakary Samb, ce sont les entrepreneurs de la zone qui doivent s'adapter à la nouvelle donne.
Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter, il faut se préparer. Le Maroc arrive dans la CEDEAO en défendant ses intérêts. Les pays africains doivent cesser de subir les convoitises et développer des stratégies de résistance et d'existence. Si l'on est capable à définir des politiques claires, nous ne serons pas un pays qui va subir une présence marocaine, mais qui pourra en profiter en termes de développement de coopération sud-sud.
À l'opposé, Tcherno Tchoun, enseignant en économie, partage les craintes des privés ouest-africains.
Est-ce que nos produits auront accès au marché marocain? Et si tel est le cas, est-ce que nos produits seront assez compétitifs du point de vue qualité et compétitivité prix pour pouvoir concurrencer les produits marocains? Cela quand même est une grosse préoccupation qui est légitime pour les privés de la CEDEAO.
Pour les décideurs, le débat ne se pose pas. Macky Sall invite les privés nationaux à la performance.
Le vrai débat, c'est de faire comme les Marocains, d'être aussi compétitifs et travaillons ensemble, gouvernement et secteur privé, pour que la compétitivité de notre secteur privé puisse préserver les intérêts nationaux par rapport aux enjeux qui se posent.
Le secteur privé sénégalais ne partage pas cette position, Mansour Kama avertit.
Le secteur privé est parfaitement conscient que le monde est aux alliances intelligentes suivant le principe du gagnant-gagnant. Il s'agit simplement pour nous d'alerter et d'attirer l'attention de notre État sur les risques qui naissent de la marginalisation de l'entreprise nationale.
Tcherno Tchoun pense que les États doivent accompagner leur secteur privé pour résister à la pénétration du Maroc dans le marché de la CEDEAO.
Alors peut-être ce qu'il faut rappeler au président, avec tout le respect qu'on lui doit, c'est que ce qui fait la compétitivité du secteur privé, n'est-ce pas, dépend du climat des affaires qu'a mis en place l'État. Ce qui renforce ton secteur privé national émane, n'est-ce pas, de la responsabilité de l'État, parce que l'État doit accompagner son secteur privé national.
Macky Sall conforte le secteur privé il annonce des mesures pour sauvegarder les économies de la sous-région en cas de menace.
Les chefs d'État, il faut quand même les respecter et considérer que c'est des êtres au moins dotés d'intelligence minimale pour pouvoir défendre les intérêts de leur pays, de leur région. Nous n'avons absolument rien à dépendre du Maroc. Donc si l'analyse et les études montrent clairement que nos économies sont en péril, nous pourrons prendre les mesures de sauvegarde nécessaires.
Cette annonce ne rassure pas les économistes. Dr Choun estime que les économies de la CEDEAO sont en sursis.
Avec le Maroc d'ailleurs, ça va même ouvrir les portes aux entreprises européennes parce qu'on sait qu'aussi il y a beaucoup de présence européenne au Maroc. Donc tous ces produits-là vont venir inonder le marché de la CEDEAO. Donc ça va tuer nos industries. C'est d'ailleurs là où devrait quand même aller la vision, n'est-ce pas, de nos États, de nos leaders, de nos hommes politiques, de nos dirigeants politiques.
L'Afrique sera bientôt une zone de libre-échange continentale. Pour Macky Sall, les entrepreneurs nationaux doivent se préparer à cette mutation interne.
Nous sommes dans un monde globalisé. Le Sénégal ne peut pas évoluer tout seul dans son coin. Nous avons des partenariats, nous avons des financements extérieurs. Donc on ne peut pas dire que nous faisons que la promotion de l'entreprise nationale.
Le PIB du Maroc était à plus de 100 milliards de dollars en 2016. Les 15 pays de la CEDEAO vont atteindre les 750 milliards de dollars en 2017 en PIB. Le déséquilibre semble favorable au Maroc, mais avec une bonne adaptation, la CEDEAO peut en tirer profit. Mamadou Lamine Ba, à Dakar, pour la Deutsche Welle.
Face à des défis humanitaires immenses, nous testons un nouveau modèle économique conçu pour mieux venir en aide aux personnes en détresse. Ce sont les mots du président du Comité international de la Croix-Rouge. Le CICR vient de lancer les premières obligations à impact humanitaire. Les 26 millions de francs suisses levés doivent permettre de financer la mise en route de 3 centres de réadaptation physique à Kinshasa, en RDC, Mopti au Mali et dans le nord du Nigeria, à Maïdougouri. Tobias Eprecht, à la tête de ce nouveau programme de recherche de fonds privés, nous parle de ce projet pilote.
Le CICR, il a un budget assez important, donc actuellement c'est 1,8 milliard de francs suisses, dont la majorité vient des gouvernements. Évidemment, les besoins continuent à augmenter et puis la possibilité de suivre cette croissance n'est pas illimitée. Donc ça fait depuis un bon moment que le CICR est en train d'évaluer les différentes options pour élargir les fonds disponibles. Et puis une de ces options, c'était d'analyser jusqu'à quel point ces moyens innovatifs, l'innovative financing, est une possibilité pour le CICR de compter ses recettes pour faire ses travaux dans les pays où il est actif.
Et qu'est-ce qui pousserait, par exemple, une entreprise suisse ou d'une autre nationalité à prendre des obligations et à vous soutenir ?
C'est essentiellement des prêts, prêts financiers que ces investisseurs font. Donc, au fond, c'est un investissement comme des autres qui existent, avec la grosse différence, évidemment, c'est des investissements qui ne sont pas liés au marché financier, mais qui sont liés, dans ce cas-là, à la capacité du CICR de rendre des services auprès des gens nécessiteux. Donc, oui, fondamentalement, c'est un investissement, donc un investissement un peu comme tous les autres.
Quelle est la réponse actuellement des entrepreneurs ? Est-ce qu'ils se sont déjà lancés là-dedans ?
Absolument. Nous, on vient de signer tous les contrats au mois de juillet de cette année-là. Donc, on a recueilli, ou on a sécurisé, si vous voulez, quasiment 20 millions de francs suisses de la part des investisseurs. Et avec ces 20 millions de francs suisses, on a la possibilité, on a les moyens maintenant d'implémenter ce programme pendant les 5 ans à venir.
Et vous avez déjà un profil des entrepreneurs qui vous ont soutenu ?
Il y a une grosse réassurance qui fait partie des investisseurs. Et puis après, il y a une banque privée, Lombard-Odier, à travers Lombard-Odier, plusieurs de ses clients qui ont investi dans ce projet.
Quand est-ce que la construction des centres va démarrer ? Quand est-ce que le projet va être concret en Afrique ?
il y a plusieurs volets du programme. Donc le premier, c'est déjà de la construction de ces trois nouveaux centres. Donc là, on est actuellement dans la phase de design. Donc il y a des architectes qui travaillent dans les pays concernés pour obtenir pour avoir les plans, mais aussi obtenir les permis de construction. Donc là, c'est déjà assez avancé. Un deuxième volet, c'est de la formation des nouvelles personnes qui vont travailler dans ces centres. Donc cette formation, elle vient de commencer aussi. Et puis un troisième élément, c'est de développer un nouveau outil digital pour finalement pouvoir gérer la gestion de ces centres dans son ensemble, entre les aspects ressources humaines jusqu'à la gestion des patients. Donc ça, c'est aussi un projet qui est en cours, donc où on a bien pu commencer. Donc dans la première phase, elle va se terminer dans 3 ans. Donc une fois les personnes formées, l'outil finalisé et puis surtout les centres construits. À part dans la deuxième phase, c'est finalement la mise en œuvre ou disons le faire tourner ces nouveaux centres qui commencent à partir du quatrième année du projet.
À l'avenir, est-ce que vous pensez développer encore cette idée-là ou vous concentrer sur autre chose, chercher d'autres moyens de financement?
Ok, le bilan il est encore tout neuf parce qu'on vient de le lancer, mais au même moment, c'était clair pour nous. Donc de lever 20 millions ou 26 millions dans ce cas-là, c'est un montant important. Par contre, évidemment, dans un budget comparé au budget CSR de 1,8 ou quasiment 2 milliards pour l'année prochaine, c'est encore très, très faible. Donc, comme c'était le premier projet dans ce sens-là, à part évidemment de recueillir plus de fonds, c'est aussi une exercice d'apprentissage, de voir finalement jusqu'à quel point ce type de projet ou de recherche de fonds est adapté pour le CSR.
Et en moyenne, chaque centre devrait accueillir 2000 personnes par an, selon Tobias Eprech du CICR. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous voulez réentendre ce magazine Économie et Développement, rendez-vous sur notre site dw.com/français, rubrique médiathèque. Merci et à la semaine prochaine.